la démarche était celle-là, c'est-à-dire raconter l'histoire à travers les hommes qui ont fait Fortis, tant la maison, et qui ont défait cette maison par la suite.
Alors remettre le côté humain dans cette zone et économique, ça, c'est vrai que c'est un aspect important, parce que au-delà de la problématique de la mondialisation, vous expliquez quand les banques se sont engagées à partir des années 90 à grandir, à faire peut-être s'aventurer sur des chemins plus risqués pour devenir plus grands, des éventuelles ou pas erreurs de management, il y a une question très importante qui est la question de l'émotion finalement. Par rapport à cette banque, parce que vous expliquez que les banques belges en général ont un rapport particulier avec leurs actionnaires ou leurs clients. Leurs clients sont souvent des actionnaires. En plus, chez Fortis, un Belge sur trois est client. En plus, c'était réputé quand même pour des bons placements, de bons pères de famille. Il y a également un grand côté émotionnel, et je dirais aussi, on l'a vu aujourd'hui, parce que sans doute Fortis représentait le dernier grand fleuron belge après Electra Bell. D'ailleurs, Johan Condé, vous aviez fait un livre sur GDF Suez de France. C'est peut-être pour ça aussi qu'il y a une grande force émotive qui a accompagné l'histoire de la chute de Fortis.
Complètement. Il y a, en gros, la Fortis pesait, hein, il faut commencer à parler à l'imparfait, même si toutes les procédures ne sont pas fermées, pesait un tiers de l'épargne, captait un tiers de l'épargne belge. Ça veut dire que tous, qu'on soit client directement ou indirectement de Fortis, ou actionnaire, bien entendu, et souvent on était actionnaire et client, et souvent on était même actionnaire employé et client, donc on a tout de suite, là, on voit un peu à quel point le Fortis occupe un rôle central dans les vies. On est tous plus ou moins liés à Fortis, c'est-à-dire que personnellement, je n'ai pas d'action Fortis et je n'ai pas de compte chez Fortis, mais j'ai certainement, via l'assurance de groupe de mon employeur, quelques actions Fortis, etc. Donc d'une manière ou d'une autre, on a tous été touchés à des degrés divers, certains de façon complètement directe. Et donc ça ajoute certainement à l'émotion qu'on a pu ressentir, spécialement dans des moments clés comme les assemblées générales, où là, tout à coup, il y a eu des frondes, pas toujours très contrôlées, nous a-t-il semblé, d'ailleurs, dans l'expression et dans les objectifs. Mais on se rendait bien compte que si on parlait de Fortis, mais dans l'arrière-plan, vous avez tout à fait raison, on parlait d'Electra Bell, on parlait de la Royal Belge, on parlait de Petrofina, on parlait de la BBL, on parlait de Tract Bell, toutes ces boîtes, passez-moi l'expression, belges, qui faisaient la fierté de l'économie belge il y a 10 ou 15 ans, qui n'ont pas eu la surface financière suffisamment solide à l'heure de l'européanisation pour rester seuls, et qui se sont retrouvés, à un moment de faiblesse ou à un autre, des cibles toutes trouvées pour plus grand qu'eux. Ici, BNP Paribas.
Alors finalement, je vais résumer succinctement et globalement, et en plus, après le public pourra peut-être aller plus dans des questions de détails. Vous dites finalement la chute de la maison Fortis est due à deux choses principales. L'arrivée de Fortis sur les marchés américains des subprimes très très tard, alors que Fortis les connaissait mal. Et alors le rachat de la banque ABN AMRO, où Fortis a dû racler les fonds de tiroir pour l'acheter. Pour vous, c'est les deux grandes raisons qui ont fait la chute de cette maison.
C'est un raccourci, mais il y a, c'est en fait, s'il faut synthétiser, c'est un peu ça. Plus que ces deux raisons, c'est la concordance, la concomitance de ces deux phénomènes qui ont eu un effet ciseau, si vous voulez. En soi, le rachat d'ABN AMRO avait du sens, et c'était peut-être très très ambitieux, et aujourd'hui, avec le recul, on dit peut-être trop ambitieux. En attendant, ça avait du sens, et à l'époque, tout le monde applaudissait, du reste, hein, y compris les marchés et les actionnaires qui ont voté massivement pour ça, sur base du projet qu'on leur présentait, qui semblait ambitieux, qui est arrivé à un moment où le marché se lézardait. On prend parfois une image qu'on a déjà utilisée une fois ou l'autre. En fait, ils ont signé, si vous voulez, le contrat d'achat d'ABN AMRO en entendant que le mur se lézardait. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on signe? On signe pas? On est parti dedans, on s'engage, c'est très ambitieux. Les modalités de financement, les sources de financement qu'on imaginait au moment où on a racheté pouvoir trouver, eh bien, se sont asséchées, elles ont disparu. Il a commencé à falloir chercher un peu partout. Et petit à petit, et c'est sans doute la plus polémique, mais en tout cas, on l'a développé largement dans le bouquin, il y a eu aussi, à ce moment-là aussi, une découverte d'une exposition du groupe à des produits financiers, spécialement aux produits structurés type subprime aux États-Unis, pour des quantités finalement pas plus grande que dans d'autres groupes, mais non gérée, ça clairement. On a démontré par A plus B, sans avoir été contesté jusqu'ici, aucunement, que la gestion des risques en matière d'exposition dans des produits pourtant très compliqués s'est faite d'une façon approximative. Je dois faire attention à ce que je dis parce que je suis sûr qu'il y a des oreilles expertes qui m'écoutent, mais je pense que c'est vraiment ça le problème. La concordance des deux a fait qu'à un moment donné, Fortis n'avait plus les moyens de ses ambitions, et c'est ce qui lui a causé c'est ce qui l'a fait trébucher, et dont certains en ont profité même.
Et d'où la question finalement de comment gérer une crise. Est-ce que les vrais dirigeants justement ne sont-ils pas ceux qui peuvent gérer les crises et non pas le quotidien? Est-ce que c'est pas là où on voit les vrais dirigeants justement en période de crise? Johan Condé, c'est à vous.
Je dirais oui.
C'est une question philosophique.
Je dirais oui, mais c'est un peu court. Enfin, je veux dire, un dirigeant peut être aussi bon qu'on peut l'attendre ou l'espérer de lui et se heurter au mur qui se dresse face à lui. Donc, je veux dire, ici, comme Paul l'a bien exposé, on est dans une situation quand même extrêmement particulière, exceptionnelle. Bon, voilà. Est-ce que un dirigeant autre que celui qui était à la tête de Fortis au moment de sa chute aurait pu l'éviter, ou voir ses prédécesseurs, puisque, comme vous le savez, il y a eu quand même une succession durant l'année 2008 de dirigeants, ce qui explique aussi d'autres choses, mais c'est très difficile. Moi, je ne pense pas nécessairement que ça aurait changé grand-chose. Il y a une telle conjonction d'événements que vous pouvez être le meilleur. Il y a un moment donné où on est dépassé par les événements qui sont d'une rareté. Ici, on a cette conjonction à la fois de défaillance, ou en tout cas de soupçons de défaillance interne, de marché interbancaire qui s'écrase, d'un rachat qui coûte cher et qui se fait à un moment qui, après coup, qu'on peut juger inopportun, mais ça c'est de l'après coup toujours. Donc cette conjonction de faits comme très particulier explique beaucoup de choses, et donc avoir eu même le plus grand génie de la finance à la tête de Fortis n'aurait, je pense, mais c'est une opinion personnelle, peut-être pas changer grand-chose, je crois.
C'est vrai qu'après coup, c'est facile de refaire l'histoire, les différentes étapes. C'est ce que vous faites à travers ce livre, la chute de la maison Fortis, qui aurait pu s'intituler la chute du milieu bancaire. Parce que c'est vrai que là, c'est Fortis, vous parlez également de Dexia, mais c'est une situation qui touche tout le monde bancaire. Aujourd'hui, c'est tout un système qui est remis en question. Il y a quand même une question aussi importante aujourd'hui qui est la question de la responsabilité, car il y a des choses qui se sont passées. Comment justement après éventuellement faire en sorte qu'il y ait une responsabilité, car c'est un cas complètement unique ce qui s'est passé. Et c'est vrai que ça pose une nouvelle fois la question du contrôle et de la responsabilité. Et ça aussi, c'est une nouveauté à laquelle on va devoir faire face aujourd'hui, l'après Fortis.
Ça va se jouer sur plusieurs plans. Il y a d'abord au niveau européen, au niveau politique, toutes les instances importantes se sont empressées de s'emparer de la question du contrôle des risques en disant on a beaucoup trop laissé ça couler gentiment en autogestion, etc. Il va falloir reprendre ça. C'est évidemment politiquement très porteur de dire ça. À partir du moment où toutes les banques sont exsangues ou recapitalisées avec de l'argent public, ça vient quand même particulièrement tard. Je ne suis pas sûr d'ailleurs que ce soit la panacée. Il y a un grand banquier belge qui me disait il n'y a pas longtemps le problème avec les crises financières, c'est que la suivante vient toujours d'un côté qu'on n'avait pas vu venir. Et donc on va se focaliser sur certaines choses alors que peut-être il faudrait un petit peu anticiper davantage. Le problème de Fortis, c'est de ne pas avoir anticipé ce qui s'est passé par rapport à grand manager ou pas. Un grand manager d'une institution financière est censé anticiper les risques financiers par nature, c'est son métier. Ici, le contrôle, la gestion des risques au niveau européen, mondial, G20, FMI, tout le monde s'y met avec 12 000 recommandations. On verra bien ce qu'il en sortira d'ailleurs au bout du compte. Ça, c'est une manière d'encadrer et de responsabiliser davantage. Et puis, il y a quelque chose de plus délicat, mais qui va se jouer aussi, c'est que maintenant qu'on a mis de côté, maintenant que BNP l'a emporté par un vote qui ne souffre pas beaucoup de contestations ou plus beaucoup de contestations, il y a la responsabilité individuelle des managers et des administrateurs qui est évidemment en cause. Il n'y a aucun doute qu'il y aura derrière des actions judiciaires qui sont d'ailleurs en préparation, certaines sont déjà introduites. Et c'est bien pour ça que les actionnaires ont refusé d'accorder la décharge aux administrateurs de Fortis et aussi de Fortis Bank hier, en se disant nous refuserons à ce stade de vous dégager de toute responsabilité pour ce qui s'est passé en 2008. Et ça ouvre la possibilité d'action derrière. Ça, c'est clairement pour ça que ça a été fait. Mais ça prendra des années et on verra bien sur quoi ça débouchera, parce qu'il s'agit encore de prouver ça. Hein. Pour le moment, il y a énormément d'émotions, d'accusations. Il y a certains boucs émissaires tout trouvés qui sont dans le viseur des déclarations publiques. À tort ou à raison, c'est pas à moi de juger, mais en attendant, il faudra prouver ces choses-là avant de dire que c'est la faute à...
Et puis l'histoire s'écrit chaque jour encore, puisque c'est vrai qu'après ce livre, eh bien la semaine passée, il y a eu la vente à BNP Paribas. Alors pour des profanes que le public est souvent, et moi j'en fais partie, il y a aussi un mot qu'on entend souvent, c'est la peur finalement, la peur de ceux qui travaillent chez Fortis, un bain social assez sanglant. Et enfin, pour résumer, et je crois que c'est résumé également en actionnaire qui disent ça, c'est comme si la Belgique avait peur de garder Fortis, mais par contre, c'est comme si la France avait peur de perdre Fortis. C'est vrai qu'il y a vraiment de quoi y perdre son latin pour le grand public. Et là, c'est peut-être aussi le rôle des journalistes, c'est de nous éclairer. C'est une fois de plus une guerre de l'information, quelle qu'elle soit.
Il y a vraiment eu une guerre d'informations sur le sujet Fortis. C'est bien la preuve que c'était un sujet émotif, émotionnel, je ne sais pas quel est le qualificatif exact, c'est qu'il n'y avait pratiquement plus de personnes neutres. Soit vous étiez du camp des believers, comme on dit, de ceux qui croient qu'il y a moyen de rester seul, etc. Soit vous étiez dans le camp de ceux qui disaient on est foutu, on est incapable de gérer une banque, regardez-nous, on est avec une bande de nazes, et en plus on a besoin de l'argent des autres, etc. Il y avait vraiment deux camps. Il était très difficile, je crois qu'il y a encore un ou deux économistes qui ont joué le rôle, ou experts, disons, observateurs bien implantés, qui ont joué le rôle neutre, ce qui prouve qu'il y avait vraiment une grosse bagarre. Et en tout cas, on aurait peut-être pu appeler ce bouquin aussi la chute d'une certaine Belgique, parce que c'est encore une fois un grand fleuron qui part. Il y a beaucoup de gens qui s'interrogent sur la surface du pays finalement aussi, et aussi de son système politique. C'est une question qui va, à mon avis, arriver dans les jours et les semaines à venir. Est-ce qu'on a les politiques, les compétences, l'administration fédérale, hein, alors qu'on est beaucoup dans des logiques de communauté de plus en plus fortes, pour assurer, pour donner le socle à Fortis, qui par ailleurs avait un bilan bancaire pratiquement trois fois supérieur au produit intérieur brut belge. Ça veut dire que toute la richesse créée en un an en Belgique, Fortis avait en termes d'engagement pratiquement trois fois ça. Ça a fait peur à beaucoup de monde, parce que c'était devenu une espèce de monstre impayable ou ingérable, du moins aux yeux de beaucoup de responsables politiques notamment.
Alors c'est vrai, ben Filigrane, il est dans ce quartier de pouvoir, je l'ai dit, il y a eu un livre l'an passé par vous, Johan Condès, par rapport à GDF Suez, par rapport à Electrabel, puis maintenant aujourd'hui c'est Fortis. J'espère que votre prochain livre ne sera pas Filigrane. Voilà, c'était pour faire une petite note d'humour avant de passer aux questions. Alors je vais venir près de vous avec le micro afin que tout le monde puisse entendre les questions, et si vous pouvez être le plus clair et le plus succinct possible pour la bonne marche. Je ne sais pas qui désire ouvrir le bal des questions.
J'ai lu votre livre, je peux vous rassurer, il n'est pas du tout ennuyant à lire, donc il atteint très bien son but. Moi j'avais une question, la tête de Fortis est tombée. Par contre, tous ceux qui au sein de la banque ont pris des décisions malheureuses et des risques trop élevés, ils travaillent toujours au sein de la banque. C'est pas difficile à vivre ça pour les autres? Est-ce que vous avez pris des contacts au sein de la banque et...
Bien sûr, on a beaucoup de contacts, n'en déplaise au service communication de Fortis. Et c'est clair que c'est quelque chose qui pose problème. Enfin, il faudra quand même prendre le temps de sortir de ce nuage d'émotions dont la poussière n'est pas encore retombée, ça c'est clair. Mais en interne, d'abord, ils sont sortis d'un tunnel, les employés de Fortis. Moi, je ne sais pas comment ils ont fait. Personnellement, je ne sais pas si j'aurais résisté à 7 mois d'incertitude comme ils l'ont fait. Donc il faut quand même pour eux, sans doute, être content qu'il y ait une fin. Je veux dire, ce n'était peut-être pas celle que tout le monde voulait. Il y avait aussi le clan du stand-alone en interne qui travaillait à faire des plans belgo-belges, on reste belge, mais sans trop devoir le dire, puisque BNP était déjà plus ou moins dans les couloirs. Donc au niveau schizophrénique, ça ne doit pas être triste. Et puis il y avait le clan de ceux qui disaient qu'on en finisse avec ce management qui n'a quand même pas fait ses preuves, qu'on ait une fois une banque BNP Paribas qui n'est pas la dernière. Et ces deux clans ont survécu avec des gens qui passaient de l'un à l'autre. C'était très clair, des coups de fil. Sur une semaine, on pouvait entendre la thèse passer, si vous voulez, la même personne défendre plusieurs thèses différentes. Et certainement que pour beaucoup, il est temps qu'on fasse la clarté sur ce qui s'est passé, notamment sur la gestion des risques, qui a quand même été un des gros problèmes de Fortis sur la gestion de son portefeuille d'investissement. Et là, ce serait pas mal que ça se fasse, mais hors de l'émotion, s'il y a moyen, hors des de ce point de vue-là, l'arrivée de BNP Paribas va peut-être arranger les choses parce qu'ils vont venir avec leur logique extérieure. Vous êtes du clan A ou du clan B. Moi, l'expression, je m'en fous. Je veux que la maison tourne selon mes règles. Ça va peut-être éviter quelques débats, règlement de compte en interne. C'est sûrement quelque chose à faire maintenant dans les mois à venir. Vous avez raison.
Je crois que la direction de BNP Paribas s'est procuré quelques ouvrages aussi. Donc.
Au vu de ce qui s'est passé, donc la vente à BNP Paribas et toutes les assemblées générales, est-ce que vous ne croyez pas, et bon, dans le temps c'était la même chose et ça a fait l'objet d'une dizaine d'années d'un livre de Béatrice Delvaux, est-ce que vous ne croyez pas que les actionnaires majoritaires, bon, c'est vrai, ils sont majoritaires, mais ne croyez-vous pas que leurs droits de vote sont beaucoup trop élevés par rapport à la dilution des petits actionnaires ? Parce que normalement, on peut limiter à 5%, par exemple, quel que soit le nombre de parts qu'un actionnaire possède, on pourrait très bien limiter à 5% son droit de vote.
Dans votre question, je crois qu'il y a une double question. Il y a cette question technique sur la démocratie de l'actionnaire, la démocratie de l'entreprise, ça c'est une chose. Mais il y a en toile de fond, il me semble, aussi, puisque vous faites référence à l'ouvrage de Béatrice Delvaux, tous ces fleurons qui sont partis. Et je crois qu'il faut quand même faire une distinction essentielle entre ce qui s'est passé ces dernières années et le dossier Fortis. Dans le dossier Fortis, on a un actionnariat qui est extrêmement éclaté, avec quelques gros actionnaires, entre guillemets, mais quand même pas d'énormes actionnaires. Hein, je veux dire, Ping An est le seul vraiment très gros actionnaire avec 4,99% du capital, ce qui n'est quand même pas considérable. Et si on compare ça avec toute une série d'autres entreprises qui ont quitté le pays au cours des 20 dernières années, on voit quand même une différence essentielle, c'est que les actionnaires belges ont voté oui, y compris les petits actionnaires. Hein, parce que je veux dire, je vais prendre un exemple que je connais bien, le dossier Electrabel en 2005, le squeeze-out qui a suivi l'OPA-EPE de Suez sur Electrabel, elle se fait quand même après que, je ne sais plus quels sont les chiffres, mais il me semble, si mes souvenirs sont bons, que plus de 95% des actionnaires ont dit oui à Suez. Donc dans ces 95%, il y a quand même une majorité ou quasiment de petits actionnaires. Donc dire là les petits ont eu droit au chapitre, ont eu voix au chapitre, mais ils n'ont pas non plus dit non. Et ça se comprend puisque je veux dire ils ont pensé, et c'est, je ne critique absolument pas, je comprends parfaitement, ils ont pensé à leur portefeuille, l'offre qu'ils avaient devant eux leur semblait bonne. Donc ici, venir dire, est-ce qu'il ne faut pas changer la démocratie de l'entreprise ? Moi, je n'ai pas de réponse claire à vous donner à ce niveau-là. Je crois que, comme toute démocratie, elle a ses limites, mais elle parle aussi. C'est-à-dire, vous avez... Mettez-vous simplement à la place, si vous étiez, vous, gros actionnaire d'une entreprise et que vous déteniez, je dis n'importe quoi, 40%, est-ce que vous tolériez que les petits actionnaires aient plus voix au chapitre que vous? Je ne suis pas sûr. Donc, moi, je n'ai pas de réponse claire à vous donner là-dessus, mais je crois qu'il faut vraiment faire la distinction entre ce qui s'est passé dans le passé, tous ces fleurons qui sont partis, où les Belges ont dit oui, finalement. hein, parce que c'est quand même les Belges qui ont dit oui dans la plupart du temps. Et ici, un cas particulier où on a une société qui s'est effondrée et qui, je ne vais pas dire dans la panique, mais en tout cas, la bête qui est au sol se laisse un peu dépecer par le plus offrant et finalement le seul qui était là aussi. Donc voilà, c'est quand même une nuance importante par rapport au passé.
Moi, je n'ai pas encore lu votre livre, je l'ai acheté, donc j'attends de lire avec un grand intérêt ce que vous avez mis dedans, mais je me dis, le petit actionnaire, il a pu dire oui ou non à un certain nombre de points, on lui a ficelé un certain nombre de choses qui ont été bien vendues, c'est l'exécution qui n'a pas été du tout bien mise en œuvre. Alors cette exécution, il y a un certain nombre de personnes qui ont payé parce que ça n'a pas été bien fait, un certain nombre de personnes qui ont démissionné, un certain nombre de personnes qui sont parties, mais très peu finalement. Donc, pour reprendre un peu votre question, je connais plutôt le monde anglo-saxon et le monde de la City, donc je débarque ici et je vois ce qui se passe ici, et je me dis un petit peu, c'est quand même spécial parce que l'exécution n'a pas eu lieu et on ne parle pas du tout dans la presse d'un certain nombre de personnes qui ont fauté finalement, autant au sein de l'entreprise, et il y a une personne, ça c'est un job que je connais bien, qui devait tout savoir, deux, c'est le directeur financier, ça c'est clair, lui il est parti, la personne qui dirigeait tout l'investment banking, il est aujourd'hui le patron de la banque, donc je vais lire avec beaucoup d'intérêt pourquoi lui qui savait tout est aujourd'hui la personne qui est en charge, donc c'est assez surprenant. Et l'autre chose, c'est qu'au niveau des administrateurs, surtout des administrateurs indépendants, il semblerait qu'il n'ait jamais eu quelqu'un qui ait sonné l'alarme et qui ait posé des questions. Et de nouveau, d'après ce qu'on voit dans la presse en général, on n'entend jamais rien là-dessus. Donc je m'interroge et donc je ne sais pas si vous avez déjà un élément de réponse. Mais...
Si, je lisez-le, vous verrez, ce serait chouette qu'on puisse en parler une fois que vous l'avez lu, parce qu'il y a vraiment des éléments de réponse. Si la presse n'a pas beaucoup parlé de qui a à un moment donné joué avec les règles internes, ce bouquin le fait, et n'en déplaise à certains. Mais donc ce qui est clair, c'est que on nous a toujours décrit, on n'est pas employé de Fortis, mais on a toujours décrit Fortis comme une maison extrêmement hiérarchisée. Et avec l'arrivée des derniers managers, je parle bien des managers exécutifs, de plus en plus hiérarchisés. C'est-à-dire, je passe un ordre, moi, président du comité de direction, à mon comité de direction, qui le fait passer aux différents silos, hein, comme on dit, avec la banque d'investissement, la banque d'épargne, l'assurance, etc. Et ça se fait d'une façon assez peu contestée. On nous a beaucoup dit que dans les dernières années, c'était de moins en moins contestable. Et que donc, à partir du moment où il y a une décision qui est prise en haut et qu'elle est censée percoler et être exécutée par le plus grand nombre, se pose la question de savoir qui a fauté. Est-ce que j'ai fauté de respecter mon job, mon contrat, de faire ce qu'on me demande de faire, etc. Et en face de ça, est-ce que j'ai fauté en ne disant pas, en ne tirant pas la sonnette d'alarme? Il y a vraiment des gens en interne qui ont tiré la sonnette d'alarme, qui sont nommés dans le livre. Il y en a d'autres, hein, il y a un exemple très clair parce qu'on s'est pas mal braqué sur le cas du subprime, qui est un peu le boomerang qui est revenu en pleine phase de Fortis, si vous voulez, alors qu'il était censé assurer un levier et des rendements que la banque de détail ne fournissait plus. Mais il y a d'autres domaines aussi où, bien sûr, Fortis est rempli de gens très compétents et qui ont régulièrement dit « Attendez, là, je pense qu'on, je ne suis pas sûr que, je voudrais attirer l'attention sur le fait que, etc. » Et puis à un moment donné, là je ne me fais simplement l'écho de ce que j'ai entendu, mais c'est unanime, c'était à un moment donné, écoute, tu suis la ligne et tu te tais. Maintenant, hein, on fait quelque chose, on avance. J'ai rarement entendu des gens me dire le contraire. Alors voilà, alors il devait donc y avoir un comité exécutif très puissant, ne souffrant pas trop de la contestation. Et sans doute un comité d'administration, puisque là je reviens à vos premières questions. Finalement, assez peu au fait des détails techniques, métier par métier. Je suis sûr, je parle de ma conviction personnelle, je suis sûr que Maurice Lippens, par exemple, a découvert très tard le degré de risque, d'exposition de risque dans le subprime de son groupe. Non pas qu'on n'ait pas posé les bonnes questions, parce qu'il y a eu des conseils d'administration en juillet et en août 2007 où la question est revenue systématiquement, où en est-on, notre exposition, etc. Mais bien qu'on ait posé les questions, on a aussi eu des réponses qui semblait satisfaisante. Et donc, à un moment donné, on se fie à ce qui est dit, et notamment au responsable de l'Investment Bank. Et à un moment donné aussi, la CBFA, qui est censée faire un rôle important de contrôle de tout ça, ne vient qu'en deuxième ligne, doit aussi se fier à ce qui est dit, etc. On a cru comprendre que lorsque les autorités publiques sont rentrées dans le dossier vraiment en urgence, in extremis, fin septembre, début octobre, ils ont tiré des billes, hein, ils ont vraiment découvert un monde d'une complicité et d'un niveau de risque qu'ils n'imaginaient pas, y compris les responsables du département finance. Donc il y a à un moment donné une espèce de confiance qui s'est faite sans probablement tout le balisage du contrôle qu'il aurait dû y avoir, ça, oui, c'est clair.